Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'heure de l'hebdo, le magazine de l'actualité sociale et politique, magazine consacré aujourd'hui au chômage. Le gouvernement aurait dû dire que le chômage approchait de la barre des 5 millions plutôt que des 3 millions. Il aurait dû dire que 4,73 millions de personnes étaient inscrites à Pôle emploi en juillet dernier, toutes catégories confondues. Il aurait dû dire que 280 000 demandeurs d'emploi auraient été radiés des listes et donc disparus des statistiques. Derrière les sommets européens, les réunions d'experts, l'approfondissement de la crise, c'est avant tout la perte du travail, la perte du salaire, c'est-à-dire la perte du seul moyen de vivre pour des millions de salariés. La question du chômage, les causes du chômage sont évidemment centrales. De par l'impact social sur lequel on va certainement revenir, mais aussi pour la compréhension du capitalisme, car le système économique, crise ou pas, a des constantes. Et une de ces constantes, c'est le chômage. Pierre Concialdi et Ludovic sont au studio avec nous pour en discuter. Alors, Pierre Concialdi est économiste et Ludovic, vous les connaissez certainement. Il est animateur de l'émission Mode emploi sur cette même fréquence.
Consacré au chômage.
Absolument. Alors, je sais pas comment on va commencer en disant que, bon, effectivement, la crise, on peut pas la réduire à la crise en Europe. Mais nous, on va quand même contenter d'analyser la situation européenne parce que le Bureau international du travail indiquait au début de l'année, justement, qu'il y avait 50 millions d'emplois en moins qu'en 2008, depuis le début de la crise, donc. Mais en ce qui concerne l'Europe, est-ce que tous les pays de l'Union européenne sont égaux face au chômage ? Pierre ?
Non, pas vraiment. Les derniers chiffres d'Eurostat, qui est l'Institut statistique européen, disent que en juillet 2010, il y avait plus de 25 millions de chômeurs dans l'Union européenne, à 27, hein, toute l'Union européenne, ce qui fait un peu plus de 10%, 10,4% de taux de chômage. Mais derrière cette moyenne très générale, il y a de fortes différences selon les pays. Il y a des pays où ça tourne plutôt autour de 5%, comme l'Autriche, 4,5, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas. Et puis il y en a d'autres, on en parle un peu plus ces temps-ci, comme l'Espagne, la Grèce, où le taux de chômage frôle les 25%. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que quand on regarde évidemment, il y a des régions européennes qui sont beaucoup, beaucoup plus touchées, hein, comme l'Andalousie, bah, c'est un classique, mais bon, en Andalousie, on a des taux de chômage de plus de 30%, alors qu'en Autriche, dans le Tyrol, c'est moins de 2%. Et l'autre caractéristique aussi qu'on peut ajouter rapidement, c'est que le taux de chômage est beaucoup plus élevé pour les jeunes, et notamment en Grèce et en Espagne, où on a plus de la moitié des jeunes qui sont au chômage, qui est absolument dramatique.
Et cette inégalité face... Ah, pardon, Ludovic.
Non.
Tu voulais dire quelque chose?
Non, pas du tout.
Cette inégalité face au chômage, est-ce que quelque part ça reflète aussi une conséquence de la conception même de l'Union européenne?
Alors il y a des différences qui sont relativement structurelles, c'est-à-dire que bon, je parlais de l'Andalousie, on pourrait aussi mentionner, on n'en parle jamais dans le cas de la France, les DOM, hein, où les taux de chômage sont plus de 20%, 30% à La Réunion, enfin c'est quelque chose qu'on observe depuis très longtemps, mais évidemment il y a eu des pour revenir à la question, l'effet de la construction européenne ou la déconstruction européenne, je sais pas comment il faudrait dire, a eu des impacts très forts sur l'évolution, notamment ces dernières années, sur l'évolution du chômage dans les pays, notamment du sud et puis périphérique aussi en Irlande, hein, il y a des taux de chômage qui ont explosé. Donc c'est aussi une des conséquences de cette façon de concevoir l'Europe, oui, tout à fait.
Oui, je voulais juste rajouter concernant le chômage que même si les taux en Allemagne notamment sont bas, donc 5,5%, ça n'empêche pas du tout une très forte précarité parce qu'en définitive, donc c'est le chômage au sens du Bureau international du travail, donc c'est un chômage qui est total en fait, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé dans la dernière semaine, c'est comme ça que c'est calculé, et donc on oublie tout un volant de précaires qui sont très très nombreux en Allemagne, bon, et qui sont aussi Donc c'est aussi un effet des politiques économiques récentes qu'on retrouve dans tous les pays industrialisés.
Oui, oui, ben tout à fait, parce que là, on parle du chômage au sens le plus strict, hein, c'est le chômage total, c'est-à-dire au sens du Bureau international du travail, il ne faut pas avoir travaillé ne serait-ce qu'une heure. Mais par exemple, en France aussi, hein, ça concerne beaucoup de gens, cette précarité, et le collectif ACDC des autres chiffres du chômage, dans sa dernière note qui a été publiée en mai ou en juin 2010, a chiffré ce qu'il appelle l'emploi inadéquat. C'est-à-dire toutes les formes d'emploi au-delà du chômage, hein, donc aujourd'hui le chômage, je rappelle, en France, selon l'INSEE, c'est environ 3 millions de personnes, mais au-delà du chômage, il y a beaucoup de situations très précaires. Elles sont précaires parce que, déjà, quand on a un emploi, on n'a pas forcément de quoi vivre. Donc il y a des bas salaires, hein, et ça représente plus de 3 800 000 personnes en France, hein, c'est-à-dire c'est énorme, c'est un salarié sur 6. Il y a aussi des situations de précarité liées au statut juridique de l'emploi, les CDD, les intérims, les contrats aidés, ça c'est pas loin de 3 millions de personnes. Il y a aussi ce qu'on appelle le sous-emploi, c'est-à-dire les gens qui voudraient travailler plus et qui ne le peuvent pas, ou de plus en plus, un phénomène qui s'est fortement développé ces dernières années, des gens qui occupent des emplois qui ne correspondent pas à leur qualification, hein, sont aux emplois qualitatifs, on va dire. Et puis, il y a aussi, il faut pas l'oublier, ça s'est développé ça depuis 20 ou 30 années, des emplois qui sont tout simplement nuisibles pour la santé. Hein, et le collectif a recensé quelques formes d'emploi, pas toutes, et environ 2 millions de personnes. Et si on fait masse de tout ça, on constate qu'il y a, encore une fois, à côté du chômage, en plus du chômage, on va dire, pas loin de 35% de la population active qui se trouve dans ces formes d'emploi, ce qui est tout à fait considérable. Donc on arrive à près d'un 45%, c'est-à-dire près d'un actif sur deux qui se trouve soit au chômage, soit dans des conditions d'emploi tout à fait précaires.
Non, mais c'est vrai que on parle beaucoup de chômage et puis de précarité et qu'on oublie l'aspect salaire salaire ou revenu qui va avec. Et donc, comme on a eu ces dernières années un discours, disons, qui était très très anti-chômeur, notamment avec le précédent gouvernement, un chômeur parasite, on oublie que par exemple, il y a des chiffres assez ahurissants. On a 6 personnes sur 10 qui sont au niveau du seuil de pauvreté, de chômeurs qui sont au niveau du seuil de pauvreté pour 2 actifs sur 10. 2 actifs sur 10, c'est pas mal, hein, quand même. C'est vrai que le chômage a une conséquence, pour le coup, dramatique sur l'ensemble de la société.
Alors, si on peut continuer dans ce sens-là, justement, on va revenir aux chiffres dans le sens du Bureau international du travail, mais justement, les chiffres qui sont été publiés par Pôle emploi, qui sont annoncés pour l'emploi dernièrement, qui parlent d'une augmentation qui est sur le mois de juin et juillet du nombre des chômeurs à temps complet, ils disent clairement des 41 300 personnes. En fait, ça correspond à des fins de contrats déterminés, fins de missions d'intérim. Et une chose qui se développe beaucoup, c'est les ruptures conventionnelles des contrats de travail. Mais en fait, dans ces chiffres, qui déjà, sans tenir compte de tout ce que vous venez indiquer, sont énormes, et on ne tient pas compte des licenciements qui vont arriver avec tous les plans sociaux qui s'annoncent, qui sont annoncés ou qui vont bientôt être annoncés. Alors, dans quelle perspective on est ? Parce que je crois que la CGT avait estimé entre 50 000 et 80 000 suppression des postes d'une façon relativement rapide.
Aujourd'hui, d'un chiffre que j'ai en tête, hein, en ce moment, disons, il y a plus d'une soixantaine ou même 70 entreprises qui sont en train de fermer dans toute la France. Voilà. Donc ça fait c'est un mouvement qui s'amplifie, disons, depuis un certain nombre de mois, et c'est clair que la politique économique qui est suivie non seulement en France mais aussi dans les pays de l'Union européenne, enfin on aura l'occasion peut-être d'y revenir, accentue ce mouvement, hein. On est dans une politique qui accentue, avec les politiques d'austérité, la récession que connaissent ces pays, hein, et ce qui provoque, sans grande surprise, j'allais dire, du chômage, de la pauvreté. Pour la France, l'INSEE vient de publier il y a quelques jours les derniers chiffres sur la pauvreté. Bon, ils sont un peu anciens, ils s'arrêtent à 2010, mais on voit déjà une envolée de la pauvreté, hein, de plus de 600 000 personnes en situation de pauvreté, c'est-à-dire 8 millions, au total 8 millions 7 700 000 personnes qui sont pauvres au sens statistique du terme. Et la trajectoire sur laquelle on est, encore une fois, que ce soit en France ou en Europe, va certainement accentuer, malheureusement, cette tendance.
Je voulais ajouter qu'aussi c'était, enfin, on avait enfin les effets, bon, des plans d'austérité et de rigueur qui ont été commencés il y a un an et demi, visiblement. Hein, c'est-à-dire que c'est seulement maintenant qu'on commence à avoir des problèmes, effectivement, que la crise en Espagne et en Grèce produit ses effets en France et produit ses effets sur tous les partenaires européens. Donc on peut supposer que, a priori, la tendance risque de s'accentuer.
Justement, la semaine dernière, on a fait une émission sur une analyse de la crise européenne, plus particulièrement la crise du système euro. Et bon, notre invité, Michel Houssan, il nous a parlé de toutes ces politiques que vous avez évoquées et toutes ces conséquences. Il a qualifié des politiques ignares, et qui est des politiques qui nous amènent dans le mur. Enfin, alors je me demande, et tout le monde est conscient, enfin, il y a les collectifs, les économistes atterrés, des associations comme ATTAC ou beaucoup d'autres qui dénoncent et que les mêmes politiques vont produire les mêmes effets, que la France est pratiquement en récession, mais on continue. Alors, pourquoi ? Oui, parce que...
Il y a deux hypothèses, je pense. L'hypothèse... Effectivement, mais que moi je ne suis pas qu'un peu celle de Michel Husson, qu'on a des gouvernements incompétents, qui savent pas ce qu'il faudrait faire, etc. Bon, moi je crois pas, je pense que c'est des gens quand même, ils ont tous fait les nains, hein, quasiment aujourd'hui, donc ils sont pas franchement incompétents.
Et HEC.
Non, vas-y.
Et HEC.
oui, enfin ils ont tous fait des très grandes écoles, très bien formées, des bonnes têtes, comme on dit, bien faites, bon... Donc je souscris pas à cette hypothèse.
Non, lui non plus, il me dit ce qu'on a tendance à dire, les gens sont incompétents, mais
c'est ce que dit Thomas qui je lisais la revue de presse ce matin rapidement. Bon, il y a un économiste qui est classé à gauche, disons au PS, qui s'appelle Thomas Piketty, qui critique aujourd'hui le gouvernement en disant c'est des ignorants. Bon, je pense pas vraiment qu'on puisse dire ça, c'est pas vrai. En revanche, l'hypothèse qu'on peut davantage formuler, je sais pas si c'est là-dessus qu'insistait Michel Husson, c'est qu'on est on a clairement des politiques qui visent d'une part à faire pression sur les salariés pour non seulement faire pression sur les salaires mais aussi détruire encore davantage les acquis sociaux, disons, enfin ce qui reste des acquis sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même vécu depuis 20 ou 30 ans déjà une dégradation très forte de la condition des salariés. Mais là on veut vraiment il y a des puissances, disons, économiques qui souhaitent mettre l'accélérateur sur c'était clairement la politique qu'avait suivi Sarkozy depuis 5 ans et qu'il aurait poursuivi s'il était au pouvoir. Et là, on n'est pas vraiment dans un infléchissement de tendance. On a l'impression qu'à chaque fois que... je prends l'exemple de la France, mais je pense que quand un pays élit des gouvernements sociaux-démocrates, change de gouvernement, on a des effets de cliquet. C'est-à-dire, tout ce qui a été fait par le gouvernement précédent, on le garde. C'est des régressions. Et puis, ça va plus ou moins vite suivant les gouvernements, mais on continue sur la même tendance. Donc c'est ça, grosso modo. Enfin, si on lit un petit peu ce qui s'est fait depuis 30 ans en France et en Europe, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de retour. Donc je pense qu'on est clairement dans cette voie-là, c'est-à-dire de paupérisation, il faut le dire, une partie croissante de paupérisation et précarisation, mais ça va ensemble aujourd'hui, d'une partie croissante de la population, avec toutes les dérives et toutes les réflexes identitaires qui peuvent surgir, parce qu'il faut pas oublier que tout ça se fait soi-disant au nom des salariés, au nom des populations. Ce qui nourrit depuis 20 ou 30 ans un sentiment des xénophobes, des tentations de repli, et je pense que c'est très grave, on y viendra peut-être dans le cours de l'émission, pour la démocratie en général, enfin ce qu'on appelle, ce qui reste, on va dire, de démocratie dans l'Union européenne.
Ludovic.
Alors moi, j'ai quand même une question à poser, puisqu'il y a certains économistes qui ne sont pas classés à gauche, en l'occurrence à droite, qui eux-mêmes commencent à s'apercevoir des effets du plan de rigueur et qui constatent... on entend des choses ahurissantes. Hein. Par exemple, oui, peut-être que pour équilibrer la balance des paiements ou la balance commerciale, il faudrait 30% de chômeurs en Espagne et 20% de chômeurs en France.
Ah, ce qu'il appelle le chômage d'équilibre.
Voilà, c'est ça. Et puis, et donc, la question que tout le monde se pose, c'est qu'on a l'impression d'être quand même dans une zone monétaire, enfin dans une politique monétariste, hein, il me semble, c'est-à-dire avec un euro très très fort. Et est-ce qu'il y a certains économistes américains qui estiment que finalement peut-être que l'inflation serait à la limite, quitte à baisser le niveau de vie des gens, autant le baisser par l'inflation plutôt que le baisser par les plans d'austérité, puisque les plans d'austérité contribuent à maintenir la dette telle qu'elle est. Hein. Il semble que ce soit le boulet principal des problèmes qu'on a, enfin des économies aujourd'hui. Alors moi, je voulais savoir ce qu'en pensait Pierre Conciel dit. Hein. Par exemple, quel type de est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut, qui est concevable aujourd'hui?
Bon, Pierre.
La réponse courte, c'est oui. Simplement, on est dans une Union européenne où, comme on le sait tous, on a une banque centrale européenne qui est soi-disant indépendante, hein, et dont la principale mission, enfin la seule qui soit inscrite noir sur blanc, c'est de maintenir l'inflation à un niveau faible. Pourquoi ? Bah, parce que l'inflation, ça a toujours été mauvais pour les rentiers. Hein. Pas trop pour les salariés, ça dépend des périodes, mais enfin, ça a toujours été mauvais pour les rentiers. Donc, si on veut maintenir une rentabilité forte des placements, ben, il faut s'assurer que l'inflation reste à un niveau faible. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a, c'est maîtrisable, il y aurait aucun risque à avoir des politiques plus souples. Quitte à ce que ça engendre un tout petit peu plus d'inflation. Enfin, on est loin de courir le risque de l'hyperinflation que certains pays ont connu il y a très longtemps ou en Amérique du Sud plus récemment. Et donc, je pense que ça serait pas la solution, mais un moyen d'assouplir un petit peu le fonctionnement de l'économie. Et oui, sauf qu'on se heurte encore une fois. Enfin, les dernières déclarations. Enfin, il y a eu une réunion de la banque, enfin du Conseil de la Banque Centrale Européenne, je sais plus comment ça s'appelle, il y a deux jours, je crois, qui a clairement réaffiché cet objectif, enfin en le complétant par d'autres, mais et effectivement, comme tu le disais, il n'y a pas que des économistes hétérodoxes qui disent qu'on va dans le mur, hein. Même Martin Wolf, qui est l'éditorialiste du Financial Times, qui n'est pas franchement un journal révolutionnaire, dit que la politique européenne ne peuvent que conduire à l'austérité. Je pense qu'il n'y a pas de désaccord aujourd'hui entre les économistes. Ceux qui soutiennent le contraire sont... Je les entends pas, en tout cas.
C'est fou, il n'y a que les gouvernements qui n'entendent pas les économistes.
On a des questions à se poser. Hein. Vous êtes toujours à l'écoute de l'hebdo sur Fréquence Paris Pluriel dans l'année de ses 20 ans. Et vous êtes, on discute de la situation du chômage, des causes du chômage. Et on est avec Pierre Concialdi, qui est économiste et membre de l'association Les Autres Chiffres du Chômage, et Ludovic, animateur de l'émission Mode Emploi consacrée au chômage sur cette même fréquence. Avant la pause musicale, Pierre, vous parliez des décisions qui ont été prises pour, je crois que le conseil de la Banque Centrale Européenne. Mais en dehors de cette proposition qui, bon, dans le sens d'alléger et donner un peu plus de souplesse à la situation, il continue quand même à imposer et qui, d'accord, on va céder un peu dans ce sens-là, mais il faut maintenir d'autres objectifs tels que les pactes budgétaires et aussi, surtout, continuer la réforme du droit du travail. Et notamment, c'est des messages forts qui passent par rapport à l'Espagne et l'Italie, mais les droits du travail sont attaqués dans tous les pays de l'Union européenne.
Oui, parce que les soutiens que la Banque centrale est prête à accorder, c'est toujours dans le cadre d'une conditionnalité. C'est-à-dire, on vous aide un peu, mais sous réserve que, un, vous mettiez en place des politiques d'austérité, notamment le pacte budgétaire. On en reparlera peut-être parce que, en France, ça va être une échéance importante dans les prochaines semaines, puisqu'il y a une campagne qui est lancée par plusieurs associations, des partis politiques, pour exiger un référendum sur le pacte budgétaire, qui est vraiment la formalisation, un cran de plus dans l'automaticité de la rigueur imposée aux salariés et aux populations européennes en général. Et puis la réforme du droit du travail, là encore, en France, c'est aussi d'actualité, puisque le gouvernement a annoncé qu'il allait demander, comme on dit, aux partenaires sociaux de négocier, ou d'essayer de négocier sur des réformes du droit du travail. Et très rapidement là-dessus, je voudrais quand même dire que depuis 20 ou 30 ans, en France, en Espagne et dans beaucoup de pays, il y a eu déjà beaucoup de flexibilité ajoutée dans le droit du travail. Là, il s'agit, je pense, encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de franchir une nouvelle étape, c'est-à-dire d'aller encore un cran de plus vers la précarisation de l'emploi. On a déjà évoqué tout à l'heure tous les contrats précaires, la faiblesse des salaires, etc. Je pense que seule une mobilisation des salariés, des travailleurs, permettra de faire barrage à ce projet qui est relativement clair. Et personne ne se cache, ni la Commission européenne, ni la Banque centrale européenne ne se cache pour dire qu'elles exigent plus de flexibilité.
Ludovic.
Ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression, nous, ici, de vivre un plan d'ajustement structurel tel qu'on le faisait vivre aux pays du tiers-monde il y a quelques années. Mais vu les conséquences que ça a eu sur les 10 pays du tiers-monde, il y aurait de quoi s'inquiéter outre mesure. Mais c'est vrai que, cette politique de destruction de droits du travail, quand on regarde ce qui se passe en Espagne, on voit pas vraiment la réussite de ce type de politique. Alors certaines personnes disent mais peut-être qu'en fait il s'agit de copier le modèle allemand et de faire baisser tellement les salaires qu'on deviendrait plus compétitif à l'extérieur. Le problème c'est que finalement aucune économie ne ressemble tout à fait à celle de l'Allemagne. Malgré tout, on peut pas transposer des situations différentes d'un pays à un autre. Et puis on voit bien qu'en termes de pauvreté, on le paye très très cher. Donc c'est vrai qu'on revient à la question du pourquoi cette impasse perpétuelle des politiques.
Pierre.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur le diagnostic d'ajustement structurel. C'est clair que depuis 4 ans, c'est ce qu'on vit ici. Et on peut se souvenir de ce qui s'est passé dans les pays qui ont vécu ça, mais on peut voir tout simplement ce qui se passe aujourd'hui en Espagne et en Grèce, qui est clairement la conséquence de cet ajustement structurel imposé par la Troïka, les FMI, les instances internationales, plus la Commission européenne. Et par rapport à ce que disait Ludovic sur, l'idée, c'est qu'on devrait faire comme les Allemands, etc. Bon, d'une part, c'est clair que on ne peut pas transposer comme ça des politiques ou des schémas d'un pays à l'autre. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on était en train de déconstruire, c'est que c'est des politiques anti-solidaires. C'est-à-dire, quand on parle de compétitivité, l'Allemagne a effectivement, depuis une dizaine d'années, une politique très restrictive sur les salaires. Elle a fait des gains de compétitivité. Mais l'Allemagne, comme tous les pays d'Europe, commerce beaucoup, aux deux tiers, avec des pays européens. Donc si on impose à ces pays européens des politiques d'austérité, les débouchés allemands, ils vont s'effondrer. Si tous les pays font cette politique de compétitivité, comme on l'a observé dans les années 80, c'est un jeu à somme, même pas nulle, à somme négative, parce que chacun, c'est la course au moins 10 ans salarial, disons. Comme tout le monde commerce avec tout le monde, ça veut dire que les débouchés s'effondrent, le pouvoir d'achat des salariés baisse et ils peuvent plus. Et du coup, ça engendre ce qu'on a appelé dans les années 80-90 une croissance molle en Europe. Et là, on n'est même plus dans la croissance molle, on est dans la croissance quasi négative, récession. Il y a des instituts européens, allemands, autrichiens et français qui ont chiffré l'impact de ces politiques d'austérité sur la période 2010-2013. C'est sur ces trois années, sur cette période-là, c'est moins 7 points de PIB, de croissance. Donc c'est énorme. Et donc par rapport à ça, on y reviendra peut-être, mais ce qui a été négocié par François Hollande fin juin, le fameux volet de croissance supplémentaire, on a vraiment un cheval d'austérité et une alouette de volet de croissance. Donc on est très très loin du compte pour redonner à la fois un petit peu de dynamisme à l'économie et surtout du pouvoir d'achat aux salariés.
On va revenir sur cet aspect, mais je vais essayer d'amener d'une autre façon, parce que finalement, honnêtement, tout ce langage économique qu'on entend en permanence, c'est presque des lois. Ludovic a évoqué quelques aspects d'un chômage d'équilibre, et on entend dire que pour baisser le coût, qu'il faut baisser le coût du travail pour permettre éventuellement de créer des emplois. On en parle de la croissance, que c'est le même moyen de créer des emplois, que pour garder l'emploi, il faut augmenter la productivité. Vous savez tous, vous deux, dans vos discours, ils sont apparus ces éléments qui paraissent être déterminants pour garder l'emploi, c'est-à-dire pour empêcher le chômage. Mais ces espèces de lois économiques, en fait, ils sont pas supportés la réalité, l'économie réelle, parce qu'on voit les chômeurs, nous sont là, on peut témoigner de ça. Mais finalement, quelles sont les vraies causes du chômage? Parce que le chômage était toujours un volet présent, crise ou pas crise. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait du chômage? Quelles sont les vraies causes? Ludovic.
Ça va. Mais écoute, là c'est un peu vaste. Non, peut-être qu'on peut déjà dire qu'il y a une course donc à la productivité, pour utiliser un gros mot économique. Mais la productivité, ça veut juste dire tirer plus de travail de quelqu'un dans un temps donné. Hein. Donc si je ne m'abuse, les gains de productivité au cours des 30 dernières années ont été ont explosé.
Oui,
alors,
on
est explosé. Est-ce que c'est réellement responsable du chômage? Ça en fait partie.
Dit qu'il pour pouvoir garder son emploi, il faut être productif. Il faut augmenter la productivité. La productivité a été augmentée.
Oui. Mais chômage. Le problème, c'est que c'est toujours une compétition, malgré tout.
Ah,
on dit une compétition européenne. Et on n'a pas évoqué le partage du temps de travail, mais dans les solutions, mais voilà un terme qui n'est pas très économique.
Et partage des richesses, non? Je sais pas.
Partage des richesses, alors là, oui.
En même temps qu'il y a des taux de chômage qui augmentent, et à la montée du chômage, il y a aussi la montée des gains financiers. Parce que tout ce qui n'est pas passé dans les salaires des salariés, ils sont chez les actionnaires. Donc,
Oui, non, mais c'est effectivement le gros nœud du problème, c'est-à-dire que depuis 30 ans, même si ça s'est un peu essoufflé, enfin c'est un peu diminué, on a eu des gains de productivité. La question, c'est pas tellement les gains de productivité, c'est où ils sont passés, ces gains. C'est-à-dire que s'ils font retour vers les salariés, comme ça a été le cas, grosso modo, sur les années 50, 60, 70, on a une économie qui est plus productive, mais qui permet aux salariés de consommer un peu plus. Donc ça s'équilibre, disons. Là, le problème, c'est que ces gains de productivité, depuis 20 ou 30 ans, ils ont été confisqués. Hein, ils sont allés nourrir la spéculation financière, parce qu'on a eu une demande pour aller vite qui, en France, enfin qui en Europe d'ailleurs, a été comprimée. Donc le fameux théorème selon lequel il fallait être plus productif, faire des profits, investir, etc., n'a pas fonctionné, puisqu'on a vu que les profits avaient augmenté, mais la part des profits non réinvestis, elle, c'est elle qui a fortement augmenté. Le taux d'investissement d'une entreprise n'a pas augmenté parce que justement il n'y avait pas de débouchés, de demandes des salariés pour y faire face. Donc il faut revenir là-dessus, et si on parle de réduction du temps de travail sous toutes ses formes, hein, parce que je pense que par exemple la retraite c'est aussi une forme de réduction du temps de travail, mais il n'y a pas que la réduction hebdomadaire, il y a aussi des congés nouveaux à inventer éventuellement, ça passe nécessairement par une autre redistribution des richesses. Hein, c'est clair que ça a des conséquences sur la redistribution des richesses. On peut faire payer les entreprises, mais même au sein des salariés, entre ce qu'on a vu aux États-Unis, ce qu'on commence à voir, ce qu'on a vu aussi, mais de façon plus récente en tout cas en France, c'est le creusement des inégalités même au sein des salariés, entre les très très hauts salaires et puis ce qu'on disait tout à l'heure, le développement des bas salaires et de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres.
vous avez dit.
Je voudrais ajouter qu'il y a peut-être quand même une mutation de l'économie hein, telle que qu'on l'a connue au cours des années 70, puisque finalement l'industrie est quand même en perte de vitesse malgré tout. Or, il semblerait qu'on soit tout à fait incapable de remplacer les emplois, de compenser les emplois industriels par des créations d'emplois de services, hein, notamment. Et c'est ce qui est une cause un peu, semble-t-il, structurelle du chômage. Hein. Par exemple, là, dans la litanie des plans sociaux, il y a que c'est l'industrie qui est concernée. Et puis, c'est pour parler du chômage, hein, c'est c'est la province qui et les marges de la province qui souffrent énormément du chômage et de cette désindustrialisation. Alors là, c'est vrai qu'on a un ministre hein, qui s'appelle ministre du redressement productif. On se demande aussi quelle peut être la compensation économique à cette évolution, c'est-à-dire à la délocalisation pure et simple des emplois d'un certain nombre d'emplois industriels. Est-ce qu'il y a une solution à ça? C'est une cause du chômage aussi, la délocalisation.
Pierre?
Sur cette question-là, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois qu'il faut distinguer deux types de questions. Il y a des entreprises qui ferment pour être, tout simplement pour être encore un peu plus rentables. Donc là, c'est clair que c'est une logique financière qui prévaut. Et puis, il y a ce qui correspond aussi à un mouvement de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, et c'est assez naturel. Hein, je veux dire, la question des emplois de service, elle se pose aujourd'hui de façon effectivement très... Parce qu'il y a des besoins sociaux, pas mal de besoins sociaux qui sont non satisfaits. Enfin bon, là, le gouvernement et le président a mis l'accent sur l'éducation, mais on pourrait parler de toutes les activités de soins, la prise en charge de la dépendance. Il y a beaucoup de besoins sociaux non satisfaits qui relèvent d'activités services. La question, c'est comment, comme disent les économistes, solvabiliser la demande, c'est-à-dire qui va payer, quoi. Est-ce que c'est des nouveaux droits sociaux, donc forcément des recettes publiques et des dépenses publiques supplémentaires, ou est-ce qu'on laisse les gens se débrouiller pour leur revenu, leurs ressources, avoir accès à ces services? Et donc ça, c'est un vrai choix de société. Il n'y a pas de loi économique qui dicterait qu'il faudrait passer. Les pays européens, d'ailleurs, font différemment de ce point de vue-là, et ceux qui font plus collectif pour aller vite s'en sortent pas forcément moins bien que ceux qui font dans le tout individuel. Et donc là, je crois que ça peut être un moyen de créer des emplois, à condition, encore une fois, d'avoir la volonté politique de le faire, ce qui malheureusement semble pas être franchement le cas de notre actuel gouvernement.
Mais par rapport toujours aux besoins sociaux existants, Ludovic, tu as évoqué la fermeture, notamment dans l'industrie. Mais il y a quand même certains emplois dans l'industrie qui sont sauvés, mais vers quoi? Vers des productions de luxe. Et par exemple, Peugeot, s'il veut sauver quelques emplois, ça sera vers des voitures de luxe. À La Ciotat, c'est des productions de luxe. Et un autre problème aussi, c'est qu'est-ce qu'il y en a besoin? Et l'industrie, aujourd'hui, ne répond pas du tout, de toute façon, aux besoins sociaux.
Non, mais il y a quand même, sur cette industrie du luxe, je veux dire, c'est une conséquence directe aussi des politiques, j'allais dire presque de défiscalisation qu'on a connues depuis ces 30 dernières années, et qui conduisent simplement à favoriser les hauts salaires et à favoriser aussi la consommation des gens qui ont de l'argent. Donc c'est quand même un choix, semble-t-il, un choix économique délibéré de faire tourner la consommation par le haut et de faire tourner Absolument. L'économie par le haut. Il me semble-t-il, et on voit très bien que ça ne marche pas.
Pierre ?
Oui, ben là, je pense qu'on arrive à une question majeure qui est que les populations, les salariés n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils produisent et de la ouais. consommation. Il y a tout ce qui concerne l'organisation du travail, mais aussi tout ce qu'on produit, pour qui et pourquoi. Qui travaille pour qui, comme pour reprendre le titre d'un vieux livre des années 70. Bon, il faudra bien à un moment donné poser cette question de façon un peu plus forte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, et puis pour des raisons écologiques. Parce qu'aujourd'hui, si on prend un petit peu de recul par rapport... à la situation, bon, on a quand même une économie mondiale qui est, je ne sais pas, enfin, qui est hyper plus productive qu'il y a deux siècles. Hein. Et donc, on se dit, c'est quand même... Et le paradoxe, c'est qu'on a une pauvreté qui se développe. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru qu'avec la croissance, etc., on allait pouvoir éradiquer la pauvreté. Non, il y a des pays, clairement, où la pauvreté n'a pas baissé. Et puis, dans les pays européens les plus riches, hein, on voit arriver ces politiques d'ajustement structurel qui est effectivement... donc ce paradoxe, il tient à une contradiction qui a effectivement pas maîtrise par les salariés eux-mêmes de ce qu'ils produisent et de la finalité de leur production. Et je pense que la seule façon d'arriver à résoudre encore une fois cette triple crise sociale, économique, écologique, c'est que par divers moyens, les salariés reprennent le contrôle de ce qu'ils font dans leur vie concrète tous les jours. Voilà. Et bien, évidemment, c'est facile à dire. Enfin, la perspective est facile à tracer. Les forces sociales pour mettre en œuvre ce projet sont pas évidentes aujourd'hui. Ça, c'est clair.
Et puis, on n'est pas beaucoup aidé par le gouvernement, hein, qui veut absolument pas entendre parler de participation, de rentrer dans le capital, de choses comme ça. Hein.
Ah bon, on parle beaucoup des gouvernements, comme si était quand même à côté de la plaque. Et justement, on va revenir sur le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Et traité, pour ceux qui ne le sauraient pas, fixe la réduction à 0,5%, les niveaux de déficit structurel. On avait entendu de la règle d'or à l'époque de Sarkozy. Bon, maintenant, c'est la même chose. Alors, et notamment le gouvernement Ludovic, ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire voter par les parlements rapidement ces pactes budgétaires. Alors, quelles sont les conséquences, d'après ce que vous venez de tous dire, c'est l'austérité assurée et renforcée. Alors,
jusqu'en 2017.
Ah bon, d'accord, on est rassuré. On est rassuré.
Si j'ai bien compris, François Hollande parlait de revenir à peu près à l'équilibre à 3% vers 2017.
Oui, non, mais il faut voir à quel prix il va revenir à cet équilibre des 3%.
Oui, bah, le pacte budgétaire, bon, ça va être, je pense, une des questions majeures, enfin, la question majeure du débat public dans les prochaines semaines, hein. Il y a plusieurs choses à rappeler. D'abord, c'est le premier grand reniement de François Hollande, parce qu'il avait quand même dit qu'il renégocierait le traité. Il a rien renégocié. Il l'a signé. Simplement, les chefs d'État au gouvernement, à côté, on signe un papier qui prévoit grosso modo, alors on a avancé le chiffre de 120 milliards injectés dans l'économie, c'est faux parce que sur les 120 milliards il y en a déjà la moitié, plus de la moitié qui était déjà programmée. Bon, c'est totalement disproportionné par rapport à l'impact de l'austérité. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que c'est donc d'un point de vue économique, c'est une absurdité, et là il y a peu, j'ai pas entendu d'économistes qui disent le contraire, donc pour une fois ils sont un peu d'accord sur les conséquences que ça va avoir, c'est-à-dire effectivement plus d'austérité, plus de récession, donc plus de chômage et de pauvreté. La deuxième chose qu'on peut dire, et qui est peut-être au moins aussi grave, c'est que c'est encore c'est un déni de démocratie quand même. C'est d'abord abandonner la souveraineté des États pour la confier à qui? À la Commission européenne et la Cour de justice européenne qui aura à trancher les éventuels litiges. C'est-à-dire à des instances non élues. Donc on va se retrouver dans une sorte de pilotage automatique où, quand les pays n'auront pas respecté, un pays pourra traîner un autre devant la Cour de justice. Hein, des trucs complètement... on attend de voir ça... peut être rigolo, mais enfin ça sera pas longtemps rigolo, pour non-respect de, sur la base de quoi? Sur la base de critères complètement technocratiques, parce que le déficit structurel, personne ne sait ce que c'est. C'est un concept vaguement théorique, dont la traduction statistique, en tout cas, n'est pas du tout certaine. Enfin, on peut avoir des estimations qui varient de fourchette de 1 à 2 ou à 3. Donc on va avoir des technocrates européens qui vont nous dire, voilà, déficit structurel. Donc ça encore, c'est une opacité qui contribue, je pense, à miner la démocratie, parce que qu'on respecte des règles, d'accord, mais que au moins les gens aient la maîtrise de ce qu'il y a derrière ces règles. Et le gouvernement qui voudrait faire voter ce traité par le Parlement, Bon, je veux dire, s'il y a un moment où il faut demander l'avis des populations, c'est au moment où justement un pays s'engage dans un traité, puisque c'est, on peut pas revenir en arrière. Hein. Je rappelle, alors le volet de croissance, le fameux volet de croissance, lui, il est conjoncturel, mais le pacte budgétaire, lui, il est éternel. Hein. Donc, en tout cas, il est là pour un certain temps. Donc. On est un peu dans le même schéma qu'en 2005, c'est-à-dire en 2005, on avait demandé l'avis aux gens. Là, aujourd'hui, le dernier sondage montre qu'il y a 3/4 de la population française qui souhaite qu'il y ait un référendum. Et manifestement, le gouvernement tourne le dos. Donc je pense que c'est très grave. C'est très grave à la fois, bon, évidemment, pour les conséquences économiques et sociales que ça va avoir pour les gens, hein, ça c'est clair. Mais c'est grave aussi dans ce que ça signifie sur la capacité du politique, la démission du politique, on va dire. Et encore une fois, moi je trouve que c'est un déni de démocratie très grave. Et commencer un quinquennat présidentiel comme ça, c'est vraiment pas de bon augure pour la suite.
Éric.
Ben, ce qu'on peut dire, hein, quand même, ces plans de rigueur, cette façon de gérer, c'est aussi que ça fait courir un risque pour l'Europe, tout simplement, puisqu'après tout, il n'est pas exclu que demain la Grèce, voire l'Espagne, sortent tout simplement de l'euro. C'est une possibilité. Hein. Ils sont peut-être que la Grèce ne sera pas solvable, ne sera pas plus solvable demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il n'est pas certain que l'euro survive. Donc, on est un peu confondu devant la prise de risque de nos dirigeants et le risque aussi, tout simplement, d'aller dans le mur, éventuellement d'aller dans le mur. Enfin, en tout cas, l'impasse qui semble, dans laquelle semble s'être engagé, quoi.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'heure de l'hebdo. On s'est fait avoir, on est discuté entre nous. Ben, en fait, l'entre nous, c'est Pierre Concialdi et Ludovic qui sont avec nous pour parler de la situation du chômage. Et justement, l'émission Le Mode Emploi qui a lieu sur cette antenne est quelque part est apparue pour faire accompagnement à des mouvements et des marches des chômeurs dans les années 90. Et depuis, ces mouvements des chômeurs a suivi beaucoup de fluctuations. Est-ce qu'on peut faire les points aujourd'hui où on est et sur quelles revendications continuent à être organisées, si c'est le cas?
Mais écoute, les revendications des mouvements de chômeurs n'ont pas beaucoup changé finalement hein, depuis les années 95. La première des choses que réclamait assez, c'était que les organisations de chômeurs soient représentées lors des négociations de l'UNEDIC, enfin des renégociations de l'UNEDIC. Bon, c'est une question sur laquelle on n'a jamais obtenu gain de cause, en partie en raison d'un blocage syndical, mais pas seulement. Je pense que de toute façon, ce qui se joue à l'UNEDIC depuis des années reste, il me semble, hein, simplement une... On révise les droits des chômeurs à la baisse et c'est quelque chose qui a été à peu près presque constant, peut-être excepté en 2000 au moment du PAR où on avait supprimé la dégressivité. Donc c'est vrai que les organisations de chômeurs aujourd'hui sont plutôt sur effectivement la meilleure indemnisation du chômage et puis il y a aussi aujourd'hui on est de plus en plus concerné par le RSA. De plus en plus de chômeurs sont concernés par le RSA et un des problèmes du RSA reste le contrôle sur les chômeurs quoi. Et du point de vue du chômeur, je pense que le contrôle social qui va sur les bénéficiaires des allocations des chômeurs, mais des allocations au sens large, hein, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'allocation logement ou du RSA, c'est accentué ces dernières années avec la parution de plusieurs décrets et des contrôles CAF et qui qui pénalise une population qui est déjà bien esquinté. Donc ça, c'est vrai que tout ce mouvement de sanctions vis-à-vis contre les chômeurs, c'est quelque chose qu'on aimerait voir disparaître. Je veux dire, le gouvernement socialiste pourrait éventuellement revenir sur 2-3 petites choses, même si officiellement il n'est pas, c'est pas lui qui s'occupe de, il agrée seulement la convention UNEDIC, c'est pas lui qui s'occupe des négociations entre partenaires sociaux.
Mais au niveau, aujourd'hui, on peut parler d'un chômage des masses, comme on l'a vu, et en même temps, c'est accompagné pour une précarisation de l'ensemble du monde du travail et pour des plans sociaux, etc. Au niveau syndical, est-ce qu'il n'y a pas des actions face à ces attaques qui viennent de tous les côtés, mais qui en fait c'est un front des attaques. Est-ce qu'il n'y a pas des tentatives de coordination de ces différentes luttes?
Et on sort de 10 ans quand même de lutte d'occupation hein, d'ANPE notamment. Bon bah depuis qu'on a occupé l'ANPE, bah désormais on n'a plus personne au guichet. Et on sait très bien par des gens qui travaillent à l'ANPE ou à l'UNEDIC que quand des chômeurs, bon bah c'est bien qu'on le fasse, mais la première chose qu'ils font, c'est d'appeler leur direction, qui en général ne se déplace pas. C'est vrai qu'on a ces actions-là qui étaient très symboliques, ont aussi un peu montré leurs limites. Est-ce qu'il faut passer à d'autres actions un peu plus fortes? Ça dépend aussi un peu de la mobilisation des chômeurs au sens large et des salariés.
Alors, et le gouvernement, il a sorti, dit qu'il est mobilisé pour l'emploi. Il y a eu les contrats, les emplois d'avenir. Maintenant, le gouvernement lance le plan des emplois des jeunes et des seniors. Mais quels sont les aspects concernant l'emploi que le gouvernement n'évoque pas et qui pourraient être mis en pratique, hein?
Je sais pas s'il l'évoque pas, mais enfin, il l'évoque sans en parler, puisque le gouvernement dit que la question du coût du travail n'est pas tabou. Il y a même un syndicat qui le dit apparemment, donc c'est un peu gênant, à mon avis. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il remettra pas en cause, en tout cas il n'a pas annoncé qu'il remettra en cause, notamment les exonérations de cotisations sociales sur ce qu'on appelle les bas salaires. Je rappelle qu'il y a plus de la moitié des salariés qui sont concernés, donc à bas salaire selon cette définition administrative, hein. Donc ça a des effets massifs sur le marché du travail. Et on sait très bien, maintenant, ça fait près de 20 ans maintenant qu'on a commencé à mettre en œuvre ce genre de politique en France, que ça a des effets tout à fait délétères sur le marché du travail, sur les conditions d'emploi et de salariés. Si on a vu se développer les bas salaires, c'est précisément parce que ces exonérations les ont encouragés. Et donc, je pense qu'une des premières mesures qui serait positive pour les salariés, ce serait de revenir sur ces dispositifs qui coûtent très cher. Hein. Je rappelle, c'est de l'ordre de... Globalement, au-delà des cotisations, des exonérations sur les seuls bas salaires, c'est environ 30 milliards d'euros aujourd'hui, ces dispositifs. Hein, donc c'est énorme. Et ça a des conséquences, encore une fois, assez catastrophiques sur l'ensemble des salariés. Manifestement, le gouvernement n'a pas mis cette question à l'ordre du jour. Et je trouve que c'est bien dommage parce que, là encore, c'est pas une question d'économie hétérodoxe ou orthodoxe. Mais je crois qu'il y a un consensus qui a fait jour au sein des économistes pour dire que c'était pas une bonne mesure pour l'emploi et certainement pas une bonne mesure pour les salariés.
Quelles d'autres choses pourraient être faites?
L'urgence, c'est quand même, ce que je reviens un peu, mais en élargissant sur ce que disait Ludovic, l'urgence, c'est quand même de donner aux gens qui n'ont pas de boulot de quoi vivre. Hein. Et bon, dans notre pays, on a un système de minima sociaux. Donc les minima sociaux pour les gens qui sont hors emploi, donc c'est notamment le RSA ex RMI, mais les minima sociaux, enfin, il faut aussi revenir sur la question du salaire minimum. Hein. Le gouvernement, il a donné... Je ne sais pas ce qu'il a fait au mois de juillet. Enfin bon,
c'est négligeable.
C'était vraiment, c'est ahurissant quand on réalise que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un SMIC. Et encore, lorsqu'on a la chance d'occuper un emploi à temps plein, parce que il y a beaucoup d'emplois au SMIC qui sont à temps partiel. Alors, sur un demi-SMIC, je crois que l'urgence, c'est quand même de revaloriser fortement tous ces socles de minima sociaux. RSA, allocation adulte handicapé et salaire minimum.
Oui, sur le SMIC, je voulais juste ajouter quelque chose parce qu'on a souvent, enfin, on a souvent entendu que le SMIC était vraiment trop haut parce que c'est une spécificité française, qu'il est c'est le seul salaire qui est revalorisé. Or, en fait, sous le gouvernement Fillon, eh bien, pour la première fois, l'inflation est passée au-dessus de, enfin, les revalorisations du SMIC étaient en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que un SMICard a perdu du pouvoir d'achat sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et ce qui nous amène à dire que son slogan de campagne travailler plus pour gagner plus, en fait il l'a appliqué à la lettre, puisqu'il fallait réellement travailler plus pour un smicard pour gagner plus. Voilà. Mais c'est quand même terrible, le président du pouvoir d'achat a fait baisser le pouvoir d'achat des smicards.
Et Pierre?
Oui, non, mais je pense que c'est une vraie question qu'on peut aborder de deux côtés. C'est clair que du point de vue du salarié, avec un SMIC aujourd'hui, qu'on soit célibataire, je parle pas des gens qui sont en couple. Enfin, si on n'a qu'un seul salaire au SMIC, on est pauvre, quoi, très clairement. Enfin, il n'y a pas besoin de. Et alors, la question, c'est du point de vue économique, puisqu'on aurait prend souvent, finalement, on peut pas augmenter le SMIC parce que c'est un coût du travail trop élevé. Lorsqu'on regarde ce que représente le coût d'une heure de SMIC, disons, par rapport à la productivité horaire, ce ratio, il a chuté depuis les années 50 et même depuis la création du SMIC en 70. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour dire les choses autrement, par rapport à ce que rapporte un salarié à son employeur en moyenne, le niveau du SMIC est à son plus bas niveau depuis 60 ans. Donc on n'est pas, d'un point de vue économique, sous une contrainte énorme. Enfin, alors on nous dit, mais le salaire minimum, il s'est rapproché, disons, du salaire médian. Et oui, parce que le salaire médian, c'est donc le salaire que touche au-dessus du salaire médian, on a la moitié des salariés, en dessous, on a la moitié. Hein. C'est ce qui partage la population en deux. Bah, simplement parce que les salaires, dans leur ensemble, ils ont dégringolé. Donc forcément, le SMIC, il s'est rapproché du salaire minimum. Mais c'est pas le SMIC qui s'est rapproché du salaire médian, c'est plutôt le salaire médian qui, lui, devient de plus en plus faible. Je rappelle qu'aujourd'hui, tous emplois confondus, c'est 1500 euros, donc c'est vraiment pas faramineux par mois. Donc voilà, je pense que à la fois c'est une urgence sociale et c'est pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, une impossibilité économique de relever le SMIC de façon substantielle comme certains l'ont demandé pendant la campagne présidentielle.
Bon, merci Pierre, merci Ludovic, parce que l'hebdo arrive à la fin. Samantha fait des signes en disant qu'il y a des choses à nous dire, et en attendant d'entendre Samantha, je vous dis que pour ceux qui voudraient réécouter cet hebdo, sera rediffusé mercredi de 9h à 10h. Je vous rappelle que Pierre Concialdi est économiste, un membre de l'association Les Autres Chiffres du Chômage, que Ludovic est animateur de l'émission Mode d'emploi sur cette même fréquence, émission consacrée au chômage, et que je remercie Samantha pour la technique, et je remercie à nos invités d'être là. À toi, Samantha.
Merci. Je voulais juste signaler, là tout de suite à 13h, il y a une manif de soutien pour l'immeuble occupé au 260 rue des Pyrénées. C'est Métro Gambetta au Ménilmontant. Et c'est donc le DAL, les chômeurs pour répondre aux questions du mal logement. Et il y a aussi une soirée le 20 septembre à la Java pour la sortie du coffret CD de Lorraine Cœur d'Acier. Donc Lorraine Cœur d'Acier, c'est un peu l'ancêtre de FPP. Hein. C'était une radio qui donnait la voix aux sans-voix, aux sidérurgistes de Longwy. Et puis, il y a la parution d'un bouquin chez l'Échappée qui s'appelle « Un avenir radieux » de Nicolas Lambert. C'est sur le nucléaire. Vous l'avez peut-être vu ses pièces pour Elf, la pompe à fric. Et puis, je voulais signaler que René Vautier sera à la fête de l'humanité vendredi 14 à 20h au Village du Monde pour le débat sur les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie, parce que on va ressortir son film « Avoir 20 ans dans les Aurès » le 3 octobre. Voilà pour moi.
Au revoir à tous.